Le journal, Isabelle Souquet.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la grève contre la réforme des retraites. Trafic toujours difficile demain. Y a-t-il un risque de pénurie de carburant? Les négociations avancent-elles? Nous faisons le point dans un instant. Une majorité aux chausse-pieds et peut-être un gouvernement de gauche pour l'Espagne. Ce sera en 2020. L'affaire Matzneff, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi. La société trouve désormais intolérable l'apologie de la pédophilie. La législation a-t-elle suffisamment évolué au-delà du consentement, le discernement est-il suffisamment pris en compte? Invité dans un instant, l'historien Jean-Jacques Ivorel. Cela fait 26 jours maintenant qu'a débuté la grève. Les vœux d'Emmanuel Macron sont très attendus demain soir. Le président va-t-il donner un message de fermeté ou bien d'apaisement? Y aura-t-il ou non des concessions? Ce sera en tout cas la grève la plus longue depuis 1995. Les perturbations se concentrent dans les transports et notamment à la SNCF. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, appelle les employés de la SNCF et de la RATP à prendre connaissance d'avancées dans les négociations. Mais de quelles avancées, Annabelle Grelier ?
Il n'y a pas plus d'avancées aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 jours. Tout au long du mois de décembre, des discussions ont lieu entre les syndicats, la direction et le gouvernement, et quelques concessions ont été faites en effet de la part de l'exécutif. L'exécutif a d'abord proposé de repousser l'entrée des cheminots dans le nouveau système à la génération 85 pour les conducteurs au statut et 80 pour les sédentaires au statut. Alors que pour le reste de la population, il l'a fixé à la génération 75. Bref, une clause du grand-père améliorée pour la SNCF. Il est également envisagé de repousser l'âge de départ à la retraite progressivement en fonction du nombre d'années passées au statut, une phase de transition douce, dirions-nous. Des discussions sur la pénibilité doivent avoir lieu également en janvier. Mais pour autant, rien n'est acté, aucun accord n'a été ni proposé, ni trouvé, ni signé. Donc si les syndicats réformistes UNSA et CFDT admettent que des avancées ont été notées, aucun n'a pour le moment appelé à la fin de la grève, tout juste à une trêve qui n'est d'ailleurs pas forcément suivie par la base. L'exécutif est en vacances, il a renvoyé au 7 janvier les pourparlers, donc les grévistes lèvent un peu le pied, d'où cette légère amélioration du trafic. Bien sûr, l'exécutif mise sur un essoufflement du mouvement, c'est ce qu'on appelle une petite guerre psychologique, mais il y a peu de chances que les syndicats comme la CGT et Sud, qui représentent à eux deux 2/3 des conducteurs et 65% des contrôleurs, se fassent prendre à ce petit jeu. Bref, il est évident que la pression du gouvernement est plus forte sur la SNCF et la RATP, car des propositions faites à d'autres corps de métier comme la police, les pilotes, les routiers, les marins ont fait lever les préavis de grève pour janvier. Si ces deux bastions rentraient dans le rang, alors tous les autres pourraient plier.
Annabelle Grelier. Au plan pratique, le trafic sera encore très perturbé demain. Côté SNCF, la moitié des TGV TER. En région parisienne, un quart des Transiliens. Les TER seront assurés par train et autocar. Un intercité sur 5. Le trafic international est annoncé perturbé. Dans le métro, 2 lignes fermées, les 7 bis et 13, 2 lignes qui fonctionnent normalement et les 12 autres ne seront assurées que partiellement. Le trafic des RER A et B très fortement perturbé, la circulation des trams quasi normale et les 3/4 des bus qui rouleront. À noter, une bonne nouvelle quand même, les transports seront gratuits en Ile-de-France de demain 17h jusqu'à mercredi midi. La grève pourrait aussi avoir des conséquences sur l'approvisionnement en carburant. Le gouvernement se veut rassurant, il n'y a pas de risque de pénurie. Reste que 2 des 7 raffineries françaises sont toujours bloquées. Et parmi elles, le site Total de Grandpuy en Seine-et-Marne, où les salariés en grève se sont prononcés pour la poursuite du mouvement, mais avec des assouplissements, Anne Lorchouin.
Oui, une décision prise à l'issue d'une assemblée générale qui a duré longtemps, car les salariés en grève de cette raffinerie qui alimente une partie des stations-service d'Île-de-France étaient très indécis depuis les déclarations du directeur Europe du raffinage chez Total venu sur le site en menaçant d'arrêter la production si la grève continuait. Finalement donc, les grévistes ont reconduit le mouvement jusqu'au 6 janvier, mais en assouplissant un peu les modalités de blocage, un peu de pétrole raffiné pourra sortir par le pipeline du site, une quantité infime selon les grévistes, de quoi éviter que les cuves qui étaient presque pleines n'atteignent leur capacité maximale de stockage et ne conduisent à l'arrêt de la production. La raffinerie de Grandpuy est la seule raffinerie d'Île-de-France. Elle traite un peu moins de 10% de la capacité de raffinage national. Alors, y a-t-il ou non risque de pénurie en Île-de-France où les voitures circulent plus que partout ailleurs ? Total déclare être confiant. Si les blocages et les départs en vacances sont mis à sec quelques stations-service, une cinquantaine. La majorité des autres sont approvisionnées, notamment grâce aux centaines de dépôts qui maillent le territoire. Au total, deux raffineries sont donc à l'arrêt ou en fort ralentissement, Grandpuy et La Mède. Il y a quelques jours, l'Union française des industries pétrolières parlait de situation pas parfaite mais presque normale, un discours à rebours de celui de la CGT chez Total. La CGT qui mentionne que désormais, ça n'est plus que des retraites dont il est question dans les AG. Reste que le passage à un système par points affecterait particulièrement les salariés de ces raffineries qui travaillent en 3-8 et qui sont couverts souvent par des accords de branche.
Anne-Laure Chouin. Un an après l'explosion de la rue de Trévise qui a fait 4 morts et 66 blessés à Paris, un rapport d'expertise met en cause la ville et une entreprise de travaux publics. L'explosion avait été provoquée par la rupture d'une canalisation de gaz qui avait provoqué un affaissement de la chaussée. Des travaux de surface seulement avaient été réalisés et selon les experts, si la cause de l'affaissement du trottoir avait été cherché, l'explosion aurait certainement pu être évitée. Gabriel Matzneff continue de défrayer la chronique. Alors que va paraître le livre d'une de ses victimes, Vanessa Springora, qu'il avait séduite à ses 14 ans, l'auteur a envoyé une lettre aux Parisiens dans laquelle il défend la beauté de leur relation, c'est-à-dire tout l'inverse de ce que sa victime décrit comme une emprise perverse et violente. L'affaire Matzneff relance le débat sur l'impunité de la pédophilie et questionne aussi la législation en la matière. Avec nous, pour en parler, l'historien Jean-Jacques Ivorel, bonsoir.
Bonsoir.
En remontant dans le temps, on se rend compte que l'âge de la victime a longtemps été un simple facteur aggravant avant de constituer un délit.
Au départ, il y a trois infractions principales à caractère sexuel. Le délit d'outrage public à la pudeur, c'est les problèmes d'exhibitionnisme, de diffusion d'images à caractère pornographique ou autre. Et puis deux crimes, le viol et l'attentat aux mœurs, qui sont deux crimes punis de la même façon dans le code pénal de 1810. Les mêmes peines sont encourues. Alors le viol, c'est très restrictif à l'époque, c'est un coït illicite avec une femme qu'on sait ne point consentir, nous disent les juristes. Toutes les autres atteintes sexuelles sont des attentats à la pudeur. Par contre, il faut qu'il y ait violence ou contrainte pour que le délit soit constitué. L'âge de la victime sont déjà un facteur aggravant. Si la victime a moins de 15 ans, et puis aussi si l'auteur est une personne qui a autorité sur la victime. Tout change en 32. 1832, bien sûr, il y a une grande réforme du code pénal et on crée un nouveau crime à caractère sexuel, c'est l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de 11 ans. Alors l'idée du législateur est très claire. Tout adulte qui commet à l'égard d'un enfant un acte sexuel de quelque nature qu'il soit est l'auteur d'un crime, sans qu'on ait à s'occuper ni du consentement ou pas de l'enfant, ni de son discernement, ni de son état de faiblesse, ni de quoi que ce soit. Simplement le fait que l'un est un adulte, l'autre est un enfant, donc en 32 de moins de 11 ans, ça suffit pour constituer un crime.
Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il suffit d'avoir des relations sexuelles, de quelque ordre qu'elles soient, avec quelqu'un de moins de 11 ans, pour concrétiser le crime.
Pour pouvoir être accusé d'un crime. Alors, ce qui va changer au cours du siècle suivant, c'est cet âge limite. En 1862, il passe à 13 ans et en 45 à 15 ans.
Et c'est encore le cas aujourd'hui pour la majorité sexuelle.
C'est ce qu'on appelle en raccourci la majorité sexuelle aujourd'hui. Donc, le cadre était simple et assez clair. Donc, en gros, quel que soit le moyen de séduction utilisé, un paquet de bonbons, une somme d'argent, un discours... attrayant ou quoi que ce soit d'autre, peu importe, c'était un crime. Mais les juges sont extrêmement réticents à appliquer ce principe. Et finalement, ils se préoccupent dans les faits énormément du consentement. On clôt les dossiers ou on les abandonne quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu tromperie, violence ou autre. Ce qui va changer à la fin du XXe siècle, tardivement, c'est que l'État dit plus à nous de nous préoccuper de la sexualité des gens. Donc finalement, il n'y a plus qu'un critère qui relève de la puissance publique ou de l'État, c'est le consentement. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que finalement, entre deux individus consentants, on peut faire ce qu'on veut.
Même quand on a 14 ans.
C'est le problème. Comment articuler ça avec le problème de l'âge ? Le consentement devient
La pierre angulaire,
la pierre de touche de la pénalisation ou non de la sexualité.
Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Gabriel Matzneff n'est pas, ne saurait être poursuivi parce que ses victimes présumées, si on peut le dire comme ça, disent qu'elles étaient consentantes, fascinées, sous emprise, mais consentantes.
Alors après, c'est tout ce qui est la définition même du consentement qui est susceptible d'interprétation. On peut considérer que quelqu'un qui est sous emprise n'est pas consentant. C'était comme, je vous ai dit au début du code pénal, la violence était nécessaire pour que les crimes sexuels soient constitués, mais on a vu énormément évoluer la notion de violence. Au début, c'était la violence physique, hein, et puis après, on a pu dire, oui, non, mais là, une violence morale, mais tout ça, c'est aussi des violences. Le patron qui fait pression sur l'emploi pour obtenir des faveurs sexuelles, c'est de la violence, voilà. Donc la notion même de violence, c'est élargie à autre chose qu'une violence purement physique, un abus de la force. Donc il en est de même du consentement, c'est-à-dire que la jurisprudence peut évoluer sur la notion même de consentement en disant « oui, non, mais quelqu'un qui est sous l'influence, etc., ne peut pas être considéré comme consentant ». Et ça, c'est des décisions de l'ordre de la jurisprudence, hein.
Jean-Jacques Ivorel, merci. Je rappelle que vous êtes historien et que vous publiez la revue d'histoire de l'enfance irrégulière. Carlos Ghosn serait au Liban, selon plusieurs titres de la presse libanaise, assigné à résidence au Japon. Il aurait été libéré sous caution. Les circonstances de son arrivée au Liban seraient encore tout à fait floues pour l'instant. L'Espagne aura-t-elle un gouvernement de gauche en 2020? Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, a conclu une alliance avec Podemos, la gauche radicale. Mais il a besoin du soutien des indépendantistes catalans pour se maintenir au pouvoir. On ignore encore la position des indépendantistes. Mathieu de Taillac.
Oui, d'ailleurs, Pedro Sanchez l'a reconnu. Nous savons que nous n'avons pas de majorité parlementaire, mais notre volonté de forger cette majorité jour après jour, loi après loi, que le Parlement commence à fonctionner, fin de citation. En réalité, si Sanchez et Iglesias présentent aujourd'hui leur programme, c'est bien qu'ils ont l'intention de l'appliquer. Les pièces du puzzle sont presque en place. Sanchez a le oui de Podemos, bien sûr, depuis un mois. Il a obtenu aujourd'hui le oui des 6 députés du Parti nationaliste basque, de centre droit, et il lui manque effectivement l'abstention des 13 indépendantistes catalans d'ERC, avec qui les socialistes discutent depuis des semaines, mais tout porte à croire qu'ils l'obtiendront dans les prochains jours. Le programme, d'ailleurs, leur fait quelques clins d'œil. Pour le reste, c'est un programme clairement à gauche, avec des mesures sociales, l'augmentation du SMIC, par exemple, qui doit passer en 4 ans de 1050 à 1200 euros, hausse des impôts sur les plus gros salaires également, les tranches à plus de 130 000 euros et à plus de 300 000 euros annuels verront leur taux relevé, ou encore le démantèlement de la réforme du marché du travail votée par la droite en 2012. Enfin, des mesures écologistes et des lois mémorielles sur le franquisme sont également prévues.
En Australie, le bilan des incendies qui ravagent le sud-ouest du pays ne cesse de s'alourdir. 3 pompiers volontaires décédés. Melbourne, la deuxième ville du pays, est menacée. Des milliers de personnes ont été évacuées dans tout l'état de Victoria. Valérie Crova.
30 000 touristes ont été invités par les autorités à quitter la côte d'East Gippsland, où se trouvent des parcs naturels situés en zone forestière, pour éviter qu'ils ne soient pris au piège. Plusieurs dizaines d'incendies font rage actuellement et la situation évolue très vite. Une habitante de la ville de Malo, dans l'état de Victoria, raconte.
Nous sommes encerclés par les feux. Il y a beaucoup de fumée. Il y a encore beaucoup de gens ici. C'est une zone très étendue. Une grande partie du comté est menacée par les flammes. Toutes les routes sont fermées. L'autoroute est fermée. On ne peut pas partir maintenant.
Face à l'intensité de certains feux, les pompiers qui tentent de les maîtriser ont été contraints de reculer, trop dangereux. Le front s'étend désormais sur un millier de kilomètres, comme nous l'explique cette Australienne qui vit dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Les incendies à l'extérieur de Melbourne, dans la région de Gippsland, représentaient hier approximativement la moitié de la superficie de la Belgique. Ils seront sans doute encore plus importants aujourd'hui. C'est donc une zone énorme que les autorités ont essayé d'évacuer. Les conditions météo ne devraient pas s'améliorer dans les 2 prochains jours. Conséquence, la capitale Canberra a décidé d'annuler les feux d'artifice du Nouvel An. Celui de Sydney, tiré comme chaque année depuis l'Opéra de la Ville, a quant à lui été maintenu, malgré une pétition demandant sa suppression.
La météo, une France coupée en deux demain, soleil à l'est et grisaille à l'ouest. Attention au gelé encore sur un grand quart nord-est, température minimale moins 2 à 7 degrés, maximale de 2 à 15 degrés, surtout en Méditerranée. 22h15 sur France Culture, tout de suite matière à penser avec Dominique Rousset.